trafic avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie et Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Ça va très bien. Ne soyez pas étonné si vous entendez un peu de musique en arrière-plan.
Mais oui.
Rio Loco n'est pas loin.
Mais on est à vol d'oiseau, quoi, même pas à 50 mètres. Allez, 70 mètres 50. C'est pour ça que ça va commencer bientôt. Toute l'après-midi, on a eu droit aux balances.
Exactement.
Et maintenant, il va y avoir les concerts. Mais toujours est-il que vous êtes avec nous pour le cinéma. Et seulement ça, Laurent. Vous allez nous parler de cinéma à voir à la télé. Combien de films ce soir ?
Oui, 4 films pour le cinéma à la télévision cette semaine. De quoi passer une bonne soirée de cinéma chez soi, tranquillement, au chaud ou au frais. Oui. Et on peut éteindre tous nos écrans, comme d'habitude, hein, qui nous envahissent de plus en plus. Et à ce moment-là, il y a un conseil de lecture sur le cinéma français.
On aime vos conseils de lecture, Laurent. Vous savez qu'on a des mots des auditeurs qui disent qu'ils sont impatients d'entendre votre conseil de lecture.
Écoutez, c'est très gentil à eux.
Ils vous aiment. Comme certaines d'entre elles, les auditrices aiment celui qui règne sur la mécanique cinématographique. Son retour de manivelle est guetté par toutes celles qui aiment le cinéma. Guillaume Sidom, bonsoir.
Et bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous et à toutes.
Comment allez-vous Guillaume ?
Eh bien, très bien.
Faites-nous rêver.
Ah, ce soir, un choc esthétique sous forme d'odyssée spectaculaire et bouleversante, sans parole, à retrouver ce vendredi soir dès 22h. En cinéma, en plein air, entrée libre et gratuite. Je vous dis tout dans quelques minutes.
Bah oui. Il sera avec nous aussi. Il a posté son petit billet pour que vous puissiez l'écouter. Et il sort de sa zone de confort. Il m'a tanné le bougre, ce Grégory Com, notre homme de loi des séries, qui va ouvrir son tribunal des séries, non pas pour une série, mais pour un film. Et un film qui est sorti la semaine dernière, mais il est devenu red dingue de la bataille de Gaulle,
ah oui.
L'âge de fer, et il veut en reparler. Il est fébrile, donc ce sera pour tout à l'heure. Le tribunal des séries qui ce soir sera consacré à un long métrage. Qu'y a-t-il d'autre dans le panier de l'ouvreuse ? Eh bien, elle va scruter l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin. Il y aura bien sûr des reprises sur le grand écran, avant les vôtres, sur le petit. Et puis bien sûr, en fin d'émission, on vous donnera nos coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations, des expositions qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et puis ce soir, on a beaucoup de chance. Pourquoi on a beaucoup de chance ? Parce que Jérémy Bretta est là et il nous fait l'amitié de venir nous trouver pour nous parler des 10 ans de l'American Cosmograph, ce cinéma emblématique du centre-ville dont il est le directeur. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir.
Comment allez-vous ? Allez, c'est dans un petit peu moins de 7 jours, hein, le 10e anniversaire, on va souffler 10 bougies.
C'est ça, la pression monte. Il fallait laisser passer Rio Loco, justement, et on arrive après.
Voilà, c'est ça. Et c'est bien parce que vous avez prévu plein de choses, hein, parce que qu'on situe bien l'American Cosmograph, pour les Toulousains, ils sont capables d'y arriver pratiquement les yeux fermés, mais ceux qui connaissent pas bien, c'est rue Montardi, c'est tout près de...
Du Capitole.
Et de la place Wilson. Place c'est Wilson, plus près même de la place Wilson que de la place du Capitole.
C'était l'ancienne Utopia, une dizaine d'années,
voilà.
Du centre-ville.
Et maintenant, c'est le Cosmo, comme l'appellent volontiers les Toulousains. Mais dites-moi, ou dites-nous plutôt, Jérémy Bretta, l'American Cosmograph, en fait, ça fait longtemps qu'il était Toulousain.
Tout à fait. Nous, on aime bien dire cinéma depuis 1907. Un peu pour faire les malins, mais c'est totalement faux. C'est que ce lieu-là a longtemps été un lieu de culture, mais qu'il s'est transformé en cinéma en 1907, et il est resté cinéma depuis. Et donc, quand il a ouvert en 1907, il s'appelait l'American Cosmograph. Et quand on a racheté le cinéma à Utopia, qu'il exploitait depuis une vingtaine d'années, pour montrer qu'on s'inscrivait dans cette longue histoire, on a eu envie de reprendre ce nom-là. Voilà.
Et est-ce que vous savez la raison pour laquelle ils avaient choisi ce nom ?
Alors, On n'était pas le seul American Cosmographe, il y en avait plusieurs. Il y en a eu plusieurs en France, notamment il y en a eu un à Nantes qui est maintenant le Cinématographe. On en a trouvé aussi qui était dans le Maghreb. Pourquoi à ce moment-là ce nom-là a été choisi? En 1907, le cinéma n'était pas la même chose. On suppose que le côté américain qui peut enfroisser certains d'entre nous était peut-être beaucoup plus à la mode à l'époque. C'est plus mystérieux pour cette histoire de cosmographe, oui. Parce que la cosmographie est une sorte de science ésotérique très peu connue de description du monde, donc on voit pas trop bien ce que ça a à faire avec le cinéma. Mais non, on a beau avoir fouillé, avoir constaté qu'il y avait beaucoup de cinéma qui s'appelait American Cosmographe, qu'il y avait des tickets cachés dans les chocolats poulains pour les cinémas American Cosmographe, le sens de ce nom-là reste pour l'instant mystérieux. Si quelqu'un a des infos, on est preneur.
Laissez un message à l'ouvreuse, cinéma@radioprésence.com ou bien sur le profil Facebook ou Insta de l'ouvreuse. Il y a aussi une imagerie, je ne sais pas si c'est le terme qu'on vient le mieux, que vous avez associé à votre cinéma, qui est aussi quelque chose qui est entre le steampunk, ces choses qui nous ramènent justement au tout début du XXe siècle et à cette imagerie de vol, quoi, de décollage, quand finalement on est face à un écran de cinéma.
En tout cas, quand nous avons décidé de reprendre le cinéma, la première chose sur laquelle on est tombé d'accord, c'était le nom, American Cosmographe. Et c'est vrai que de manière un peu intuitive, de ce nom-là a découlé tout cet univers. C'est vrai que l'idée, c'était, dans la continuité d'Utopia, de faire un cinéma qui soit pas standardisé, qui nous ressemble, et donc très vite dans la déco, on a eu envie de ces choses-là, de remplacer un peu les boiseries d'Utopia par quelque chose de plus métallique et d'avoir cette ambiance que le nom évoquait pour nous, un peu rétrofuturiste, un peu Jules Verne, un peu cabinet des curiosités. Et c'est vrai que là, avec les travaux qu'on a fait en 2023 et avec une petite surprise qu'on vous réserve pour le 16 juin, on va continuer à aller dans cet univers-là.
Il faut dire que quand on arrive dans votre cinéma, Jérémy aussi, on est accueilli par cette volée de marche et cette ambiance rare. C'est la seule qu'on peut ressentir dans un cinéma ici, à Toulouse, et même plus largement dans la région, puisqu'on nous écoute en région aussi. Et c'est vrai que c'est attaché à votre cinéma, ce côté art déco que vous avez décrit.
En tout cas, on a la chance d'avoir... on voit bien que les centres des grandes villes changent, que les magasins se ressemblent de plus en plus les uns des autres. Nous, on a la chance d'avoir ce lien-là qui est en plein centre-ville, donc vous l'avez dit, entre le Capitole et la place Wilson. Et donc, ce serait dommage d'en faire quelque chose qui est pas d'âme, quoi. Donc nous, on l'a fait à notre manière. Après, c'est vrai que le lieu est un peu contraint. En effet, il y a ces escaliers, le hall est petit, il y a plus de place pour les salles, mais j'ai l'impression que, comme Utopia l'avait fait avant, à leur manière, ce qu'on a fait nous renforce un peu ce côté hors du temps, en tout cas lieu qui s'inscrit dans une histoire un peu lointaine, quoi, de la ville. Donc voilà, après, on peut y réfléchir après coup. Sur le coup, on a fait un peu ce qu'on avait envie de faire et ce qui nous plaisait, et on a eu la chance de tomber sur un architecte, Joseph Almoudévert, qui avait des idées aussi qui allaient avec les nôtres, et voilà, ça a donné ça, donc on en est très content. Mais bon, on l'analyse après coup. Sur le coup, on s'est juste dit, mais en effet, cet effet sous-marin après ces escaliers, de rentrer dans cet espace comme ça pour se plonger dans le cinéma, enfin, on trouvait qu'il y avait un truc qui marchait bien, quoi. Et donc on y allait à fond.
On va continuer à parler du Cosmo, de l'American Cosmographe, avec vous, Jérémy Bretta. Mais en attendant, vous le savez, on commence toujours par la projection d'un film. Alors installez-vous confortablement. Cette fois-ci, écoutez bien, parce que les dialogues sont un peu particuliers.
What?
Ah ben oui, il va falloir que vous nous éclairiez, Guillaume Sidom, parce que là, on comprend pas bien les dialogues des personnages.
Eh oui, pour Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, film d'animation sorti sur nos écrans en 2024, signé du réalisateur letton Gins Zilbalodis. C'est ce second long métrage après le formidable Ailleurs, sorti lui en 2019. Oscar, Golden Globe et César du meilleur film d'animation en 2025. Prix du jury et du public au Festival du film d'animation d'Annecy en 2024. Une expérience cinématographique unique. Flo, hein, courant en français, se distingue par son inventivité visuelle et sonore d'abord dès les premières minutes du film. Nous en prenons plein les yeux, des arbres immenses aux troncs solides, des touffes d'herbes sauvages, des fleurs quasiment odorantes. Nous sommes frappés d'abord par la beauté de la nature ici. Le rythme intense de la course est servi par le dessin précis vivant de l'animation. La suite est du même niveau. La raison, outre son esthétique singulière, eh bien le film et donc muet. C'est donc uniquement par l'image que la narration avance, et une prouesse que le réalisateur a voulu pour rendre peut-être son film plus accessible. Le choix d'un chat vise aussi à rendre le film plus universel. Nous savons tous que le félin n'aime pas l'eau. Nul besoin de lui trouver un antagoniste. Le pitch, ça se passe donc dans une nature dont l'humanité a disparu, dans une forêt luxuriante. Vont subsister ça et là des ruines de palais et de maisons. Dans l'une d'entre elles, vitres cassées, sculptures félines. Éparpillé un peu partout vit donc un chat noir. C'est le héros de l'histoire et il est solitaire pour l'instant en tout cas. Et un jour, eh bien, une immense vague va déferler sur la forêt. L'eau monte et menace de tout recouvrir. Et après avoir évité de peu les sabots de cerfs affolés, le vol erratique de grands échassiers et surtout la noyade, eh bien, le chat réussit de justesse à grimper dans une embarcation qui passait par là. Une embarcation qui petit à petit va donc accueillir des rescapés d'espèces différentes. Un capybara, une sorte de gros rongeur, un lémurien, un labrador, mais aussi un oiseau. Autant d'animaux dissemblables qui doivent, pour survivre, se supporter, voire se nourrir ou s'entraider sur ce petit bateau qui vogue, on ne sait où. Mais s'entendre avec eux pour ce chat s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et donc à s'adapter au nouveau monde qui s'impose à eux.
Et c'est ce qui saute aux oreilles, Guillaume, c'est donc que les animaux, eh bien, restent des animaux, ils ne parlent pas.
Et première fois que je regarde donc un film avec des héros uniquement animaux qui ne se mettent pas à parler en langage humain à un moment ou à un autre. Ils miaulent, grognent, ronronnent, aboient, crient. Mais ne parle pas, Flo fait donc le choix d'un anti-anthropomorphisme quasi complet en rendant les créatures animées à leurs conditions sauvages, et cela a aussi des conséquences sur l'animation, à de très rares gestes près nécessaires donc pour la progression narrative. Toutes ces bêtes dont le dessin est assez simple et rappelle parfois le pixel hein, du jeu vidéo, eh bien se meuvent en bêtes. Elles évoluent dans un décor magnifique, hein, un peu comme dans un jeu vidéo. Vous savez, ces moments où le joueur n'a plus la main. C'est ce qu'on appelle la cinématique. Pour autant, n'imaginez pas un film impressionniste ou statique. Flo est véritablement une épopée avec des moments de suspense quasi insoutenables pour les amis des chats en particulier, dont je fais partie, dramatisé par une bande originale très lyrique, signée donc par le réalisateur lui-même. Dans cette économie visuelle particulière aux antipodes absolus du conte Disney, se raconte donc une fable aux enjeux très contemporains. Comment les espèces peuvent-elles ou non faire bloc en situation de danger global ? Comment peuvent-elles s'entendre, s'équilibrer sur un territoire donné où le conflit est la règle ? La grande intelligence du film, c'est peut-être d'avoir laissé dans ce monde une trace humaine, ces ruines d'un monde achevé, et surtout la présence d'animaux domestiques qui doivent survivre au même titre que les autres dans une nature totalement réensauvagée. Certes, les animaux sont traités comme tels, mais ils sont le support d'une fable qui va au-delà d'un message seulement animaliste. Se réfléchit entre eux l'élaboration d'une forme de contrat social avec les notions de propriété, de partage, d'intérêt. En fait, c'est un monde qui est autant de genèse que d'apocalypse, dans lequel penser un renouveau politique fondé sur la solidarité et qui n'est pas seulement l'idée d'une cohabitation entre espèces, mais plus une idée radicale à l'intersection entre une réflexion donc sur le vivant et sur la philosophie politique. Flo se distingue par la qualité et la subtilité des réflexions qu'il va engager chez nous spectateurs. Un chef-d'œuvre, tout ça avec un adorable petit chat. Que demander de plus ? À retrouver en cinéma en plein air ce vendredi 12 juin, 22h au domaine de Candy, domaine agricole 17 chemin de la Sodroune à Toulouse. Projection organisée dans le cadre du Ciné sous les étoiles. Entrée libre et gratuite, c'est à souligner. et en Blu-ray et DVD chez UFO Distribution. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
C'est donc le réalisateur lui-même de Flo Gint Zimbalodis, mais aidé par Rayard Zaloup, qui a composé, ils ont composé la bande originale du film Flo.
Pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Dites-nous, Jérémy Bretta, l'American Cosmographe avec ses dirigeables en tout genre va nous faire voyager au pays du Bluegrass. Quelle belle idée que voilà.
Ben, pour une fois, on assume le American de notre nom et voilà.
C'est formidable, ils s'appellent les Beanies. Aidez-moi.
Beanies Breakfast.
Beanies Breakfast, et c'est d'ailleurs le titre de leur premier album, il me semble. Beanies
Tout
Breakfast. Et c'est High on the Mountain Top. Eh oui, on va monter bien haut sur la montagne avec vous. Quelles sont les belles choses qui attendent les spectateurs du Cosmo qui vont faire le voyage jusqu'à la rue Montardi?
Alors, d'abord préciser que c'est
le 16 juin
que nous fêtons ces 10 ans-là. Donc à partir de 18h, on aura fermé la rue Montardi, en tout cas sur toute la longueur de l'aventure du cinéma, pour se retrouver un peu en plein air. A priori, il fera beau. Première chose, on discute, on boit un verre, on grignote, parce qu'on est toujours, nous, à recherche de ces moments de convivialité. Comme on disait, on en a beaucoup dans le cinéma, mais notre hall contraint parfois nous empêche un petit peu, donc là on pourra faire ça dans la rue. À partir de 18h45, donc, nous aurons les fameux Beanies Breakfast qui viendront jouer un peu pour égayer tout ça. On pourra quand même continuer à boire des verres, à discuter ensemble. Et après, à partir de 20h, on réinvestira le cinéma qui aura été fermé jusque-là. Et donc, nous avons trois salles à l'American Cosmographe.
Et donc,
trois salles, trois ambiances, trois films,
ben oui,
et trois avant-premières.
Ah ben oui, c'est formidable. En plus, les films que vous avez choisis, c'est du cousu humain. Allez, dites-nous.
Mettez-nous l'eau à la bouche.
Je sais qu'il y en a un que j'ai eu la chance de voir qui est quand même très solide. Mais je vous laisse le soin de les présenter.
Alors, par ordre chronologique, il y en a un qui va commencer à 20h, pile. Donc, il faudra arrêter l'apéro à ce moment-là. Il commencera à 20h car il a une certaine durée.
Oui, 3 heures.
Il dure 3h16. Alors, ceci dit, il ne faut pas du tout vous laisser impressionner par cette durée qui se justifie et qui se vit très bien. Donc, ce film s'appelle Soudain. C'est le dernier film de Ryusuke Hamaguchi. Donc, au-delà de la qualité du film, il y avait vraiment un sens de proposer un film de ce cinéaste qu'on a découvert au Cosmo en 2018, avec là encore un projet au long cours qui s'appelait Senses, qui était un film qui avait été diffusé en plusieurs parties et qui durait 5 heures. Et on a sorti tous ses films depuis, et c'est vraiment un auteur important pour nous. Donc là, son nouveau film s'appelle Soudain. Il était présenté au Festival de Cannes en compétition. Il a été très remarqué. Ses deux actrices principales, Virginie Efira et Tao Okamoto, ont gagné un prix commun d'interprétation féminine, à mon avis amplement mérité. Et donc j'ai cité Virginie Efira car le film se passe entre la France et le Japon. Et qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est la naissance d'une amitié aussi inattendue que puissante entre ces deux femmes-là. Il y en a une qui est metteuse en scène, plutôt au Japon, donc il va y avoir une partie japonaise. L'autre est française et travaille dans un EHPAD, dans une maison de retraite qu'elle dirige et dans laquelle elle essaye d'amener d'autres méthodes plus humaines.
L'humanitude.
L'humanitude, d'ailleurs. Et voilà, cette rencontre va changer les choses. Et oui, je crois qu'on peut le dire, il y en a une des deux qui est malade.
Oui.
Donc, ce qui va aussi renforcer cette amitié. Et le film, pendant 3h16, va nous embarquer totalement dans une première nuit de discussion presque théorique. Et puis après, va nous amener ailleurs. Mais c'est vraiment un film qui nous cueille. On se retrouve embarqué dans quelque chose de très gonflé, qu'on n'a jamais vu fait comme ça. Et je trouve que c'est une expérience presque sensorielle. On oublie totalement où on est, on laisse passer le temps, et on sort de là avec l'impression d'avoir vécu vraiment quelque chose, et quelque chose qui fait du bien, vraiment.
Cette histoire est très puissante, et vous parliez de la durée du film, Jérémy, mais on ne s'en rend pas compte. Et c'est ça qui est assez fort dans la relation incarnée par ces deux actrices formidables, de ces deux femmes, est assez extraordinaire.
Et en tout cas, ça participe de l'expérience, et il y a vraiment un moment où le film nous embarque, quoi. Et donc, à partir de là, on réfléchit plus en termes de temps, en termes de... Enfin voilà, on est pris dans une émotion, dans quelque chose...
Dans un tourbillon.
Ouais, c'est ça. Et moi, pour l'avoir découvert au Festival de Cannes, qui est un moment où on voit beaucoup de films, donc notre patience est mise à rude épreuve,
oui.
et on a plus de mal à se laisser embarquer. J'ai tout arrêté là pendant ces 3 heures là, et je suis sorti de là, et pendant 2 ou 3 heures, je ne suis pas allé voir de film parce que j'avais besoin de digérer cette expérience là, et de rester surtout sur cette note qui était. Je me sentais très très bien après ce film là, et je trouve que c'est assez rare à ce point là.
Faut préciser qu'il a quand même eu un double prix d'interprétation féminine, donc pour Virginie Efira et Tao Okamoto.
Tout à fait.
On garde les deux autres en réserve parce que, comme vous parlez merveilleusement bien du 7e art, on va pas se gâcher le plaisir. Toujours est-il qu'il y en a un autre avec l'ouvreuse qui parle bien du 7e art. C'est Laurent Martin qui va faire le panneau de la semaine. Laurent.
À l'affiche cette semaine, Disclosure Day, le nouveau film de Steven Spielberg avec Joss O'Connor, Emily Blunt et Colin Firth. Le film suit les destins croisés de plusieurs personnages. Daniel, informaticien de génie, est en fuite après avoir volé des fichiers top secrets à son employeur. Information qu'il menace de révéler au monde entier et qui changerait l'humanité à tout jamais. Il se planque avec sa petite amie Jane, avec pour seul contact son ancien collègue Hugo, qui est sur un mystérieux chantier, et son big boss et ses gorilles en SUV le pourchassent sans relâche. Steven Spielberg est donc de retour en salle ce 10 juin, et c'est déjà un petit événement en soi. Avec Disclosure Day, le cinéaste revient 4 ans après The Fabelmans, qui plus est avec un nouveau film d'extraterrestre, hein, son premier depuis La Guerre des Mondes en 2005. Et pour ce retour sur son terrain de prédilection, le réalisateur s'est de nouveau bien entouré. Hein. David Koepp au scénario, John Williams à la composition, Emily Blunt et Joss O'Connor au casting principal. Alors on le sait, Steven Spielberg n'a jamais cessé de regarder le ciel depuis Rencontre du Troisième Type. les extraterrestres ont toujours représenté chez lui une promesse, celle d'un ailleurs capable de réenchanter le monde. Avec Disclosure Day, le cinéaste revient donc à ses premières amours, mais on comprend quand même dès le début que quelque chose a changé. Le rêve des années 70 s'est envolé, les soucoupes volantes ne surgissent plus dans un ciel étoilé, comme on le voyait dans Rencontre du troisième type avec Richard Dreyfuss. Mais là, on est dans un monde saturé des chaînes d'infos continues, des vidéos militaires, parfois déclassifiées, et des réseaux sociaux, bien sûr. Alors, sur le papier, c'est assez simple. Disclosure Day s'annonce d'abord comme un thriller paranoïaque à l'ancienne, avec journalistes obstinés, archives secrètes, témoins introuvables, agents fédéraux et documents enterrés. Et pendant plus de deux heures, le film avance avec une efficacité redoutable. Dans toutes ses interviews, Spielberg cite souvent Pacula, Alan Pacula, hein, on rappelle les trois jours du Condor avec Robert Redford, et on pense même parfois dans ce film à Hitchcock. La mise en scène est toujours d'une fluidité insolente. À bientôt 80 ans, Spielberg continue de déplacer sa caméra avec une aisance qui laisse la concurrence à bonne distance. Chaque séquence possède sa trouvaille visuelle, chaque poursuite son idée de mise en scène, et rassurez-vous, le filmeur hors pair est toujours là. Le film trouve également un écho évident avec notre époque, plus que les extraterrestres eux-mêmes. C'est notre rapport à la vérité qui intéresse Spielberg dans un monde où les institutions ne convainquent plus personne. Il ne se contente pas d'observer cette fascination contemporaine pour les mystères non résolus. Il semble aussi la partager. On le sait, Spielberg a toujours été un cinéaste de la foi dans l'enfance, bien sûr, la foi dans l'imaginaire, la foi, la croyance dans la possibilité de découvrir quelque chose de plus grand que nous. Mais à l'ère des fake news et des complots numériques, ce geste n'a plus tout à fait la même signification. Et là où, par exemple, Rencontre du troisième type dans les années 70 ouvrait une porte vers l'inconnu, Disclosure Day flirte parfois avec des récits dont on ne sait plus très bien s'il les questionne ou s'il les valide. Il ne faut pas non plus oublier les acteurs dans ce film. Emily Blunt, qui joue une présentatrice météo possédée, avec ce qu'il faut d'ironie pour supporter le spectacle du monde qui s'écroule autour d'elle. Quant à Joss O'Connor, il semble lui être constamment dépassé par les événements, sans jamais perdre l'attention des spectateurs. C'est une espèce de héros comme ça, de la fragilité, du doute et de la curiosité. Il est l'incarnation de ce drôle de film. Disclosure Day est sans doute le film le plus risqué de Spielberg depuis longtemps, mais l'un des grands réalisateurs de l'histoire du cinéma n'a plus rien à prouver et il est libre de faire ce qu'il veut. Petite revue de presse sur ce film, critique positive pour Cinéma Taser. Steven Spielberg braque de nouveau sa caméra sur les lumières dans le ciel pour mieux sonder notre besoin, voire notre devoir d'altérité, de communication et d'empathie. Un film terrassant. Première a beaucoup aimé aussi sous la plume de Nathalie Chifflet. Un récit humaniste, rassembleur et altruiste. Même chose pour Télérama. Confronter des gens que rien ne prédisposait à l'aventure à une expérience qui va changer l'histoire de l'humanité est un ressort que Spielberg favorise avec succès depuis des années. Et le film poursuit malheureusement cette tradition avec une conviction qui fait pardonner ses baisses de rythme. Petit bémol quand même pour Lobs. Steven Spielberg peine à se réinventer et livre un blockbuster presque morne. Le Figaro n'a pas aimé non plus. Le script patine. Le secret est assez vite éventé. David Koepp, scénariste sans grande originalité, est le coupable idéal. Mais le réalisateur a trop de métiers et de talents pour ne pas avoir sa part de responsabilité.
Il a dit ça en anglais.
Responsabilité après. E.T. a fait pleurer des millions de spectateurs, voilà, mais Disclosure Day ne suscite lui aucune émotion. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir le nouveau film de Steven Soderbergh, qui s'appelle The Christophers, au pluriel, avec Ian McKellen. Alors, qu'est-ce que c'est, les Christophers? Alors, le film raconte l'histoire de Julian Sklar, une ancienne figure majeure du pop art londonien, devenue misanthrope, un peu comme vous, Guillaume, et qui n'a plus peine depuis des décennies, comme vous, Guillaume,
ouais,
aussi.
C'est pareil.
Et ses enfants, donc, avides d'héritage, engagent...
Oui, comme moi.
Voilà. Vous avez des enfants, vous? Ses enfants avides d'héritage engagent une certaine Laurie, restauratrice et ex-faussaire, pour se faire passer pour son assistante. Et sa mission, c'est finir en secret une série de huit toiles inachevées. Les fameux Christophers, qui sont donc des tableaux. Et bien sûr, en tirer une fortune. Voilà donc le Soderbergh semestriel, hein, puisque le réalisateur américain tourne beaucoup. The Christophers fait d'abord mine de se diriger vers la comédie d'arnaque, hein, ou le film de casse, mais s'enroulera peut-être en réalité principalement autour de longues joutes verbales entre la faussaire et le peintre, dessinant une réflexion sur la postérité des artistes problématiques et l'impureté fondamentale de toute démarche artistique, un film que l'on peut voir à l'américaine Cosmographe, hein, par exemple, si vous êtes à Cahors, au Grand Palais. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Fils de personne de Saphine Ebou avec Romain Duris. On peut le voir au Régent à Saint-Gaudens. On peut voir au Second Life de Laurence Lama. On peut voir Une année italienne de Laura Samani au CGR Montauban le Paris, ou à l'ABC à Toulouse. On peut voir aussi un film d'action, The Furious de Kensuke Sonomura et Kenji Tanikagi. On peut voir aussi un documentaire très émouvant, De monde à l'autre, de Jérémy Régnier, l'américain de Cosmograph, un film sur le deuil et l'amitié. Il y avait une grande amitié entre Jérémy Régnier et Gaspard Ulliel, qui a disparu en 2022 dans un accident de ski. Donc un documentaire très émouvant. Et pour finir, on peut voir un film d'animation, Le Vertige. Quentin Dupieux, il tourne beaucoup lui aussi, comme Soder. Un film qu'on peut voir chez vous, à l'américain de Cosmograph.
Dream like ours, wrapped in laughter's embrace. Vivid pictures, the innocence of your face. We draw.
On reconnaît la trompette, celle d'Ibrahim Malouf. La voix, c'est celle de Sonia Mohamed Chérif, le titre du morceau Memories, et on peut l'entendre dans Fils de personne, le film de Saphine Ebou, l'histoire de ce veuf français, interprété par Romain Duris, qui recherche la famille biologique de son jeune fils adoptif, parce qu'il se rend compte que, à la mort de son époux, il n'avait pas grand-chose à partager avec cet enfant, et il s'en va chercher sa famille, la vraie, pour voir si ça peut aider cet enfant et l'aider lui aussi. Un film à découvrir avec cette partition musicale magique. Laissons la belle trompette d'Ibrahim Malouf pour rejoindre le tribunal des séries qui ce soir concerne un film. Eh oui, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Tout de suite, c'est Grégory Com.
Je déclare l'audience ouverte.
Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité. Et la cour martiale vous a condamné à mort.
Autre chose ?
Des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre.
La France n'a pas capitulé.
Vous n'êtes pas la France !
Nous sommes la France.
Vous ?
Nous.
Cher Louis-Marie, je vous remercie de me laisser ce soir de sortir de ma zone de confort pour parler d'un film qui m'a particulièrement marqué, qui pour moi est important autant au regard du devoir de mémoire que sur l'avenir du cinéma français. Je vous parle évidemment de La bataille de Gaulle, l'âge de fer, actuellement au cinéma, et qui raconte une phase assez méconnue de la vie du général de Gaulle, c'est-à-dire un moment où il lance son appel, on pense que tout le monde s'est levé d'un coup pour le soutenir, ce qui est faux. Il était seul, il n'avait quasiment que des ennemis. Et à Londres, sa relation tumultueuse avec Winston Churchill était à la fois intéressante, mais potentiellement aussi périlleuse. Ce film avait l'ambition de raconter comment De Gaulle est devenu De Gaulle, comment, dans l'adversité, dans la solitude et avec une certaine idée de la France, il a bâti l'avenir de notre pays où, je dirais, nous en récoltons encore les fruits. Ce film Il est important parce que il a nécessité beaucoup d'argent. Il est en deux parties. La première partie est actuellement au cinéma. La deuxième sort dans moins d'un mois. C'était aussi une obligation de faire en deux parties, à la fois pour raconter l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est assez importante, mais aussi pour la rentabilité, ce qui fait qu'en fait il y a deux films en un. Et c'est tout le sujet. Le film ne marche pas trop au cinéma. Il y a un bouche à oreille qui est très bon, les critiques spectateurs sont excellentes, les gens adorent le film, mais pour l'instant, il ne rencontre pas son public. Moi, je vais tenter de vous donner envie d'aller le voir. C'est un film qui est une vraie œuvre. C'est pas un documentaire, donc évidemment, il y a quelques petites libertés avec l'histoire, mais qui ne trahissent pas l'histoire du général de Gaulle. Hein. Je suis un aficionados de l'histoire du général de Gaulle, ses parties positives comme ses zones plus sombres, et le film est très bon là-dessus. C'est un film qui est extrêmement bien réalisé, un film à la fois politique, d'aventure, de voyage et de guerre. Et c'est excellent. J'ai rarement vu un tel niveau dans le cinéma français. Donc je vous le conseille aussi pour ça. Le casting est 5 étoiles. Ça marche bien. Tout le monde joue très très bien. Je suis souvent dur avec le cinéma français. La qualité d'acting, là la qualité est géniale. La photographie est très belle. Il y a des moments où on a des vrais moments oniriques, des moments parfois beaucoup plus durs. Donc là aussi, c'est excellent. Il y a de l'humour. Mais pas de l'humour lourd comme on peut voir dans un Marvel ou autre, hein. De l'humour un peu caustique, un peu décalé, ça fait du bien, on s'y attendait pas, mais le personnage était drôle. C'est aussi un film qui a l'ambition de nous raconter notre histoire en la regardant en face, et en montrant à quel point elle peut être aussi grandiose. Ça fait du bien, en fait, quand on sort de ce film, on sort en se disant « Waouh !» En fait, je suis dans un grand pays avec une grande histoire et des gens se sont sacrifiés pour que j'en sois là aujourd'hui. Clairement, il est important ce film. Comme L'Abandon était un film très important, et d'ailleurs il marche bien et j'en suis heureux, ce film-là est très important pour l'histoire. Il est aussi important pour l'avenir du cinéma français, parce qu'il a demandé beaucoup d'argent. Et la question est-ce qu'aujourd'hui le public français est un public, parce qu'on a malheureusement peu de chances que ça marche aux États-Unis. L'Europe ne nous soutient pas énormément sur la distribution d'autres films. Ça, un jour, faudra qu'on en parle. Faudra qu'on ait un petit débat un jour, Louis-Marie, là-dessus, sur l'avenir du cinéma. Et donc, il faut compter à la fois sur notre public et un petit peu à l'étranger, mais surtout notre public. Si demain ce film ne marche pas, eh bien, Pathé Productions aura tendance à se dire, les Français ne veulent plus que des petites comédies, des drames et un peu de gaudriole. Moi, ça me peinerait parce que j'ai envie de revoir un cinéma français ambitieux qui embrasse son histoire, qui embrasse sa culture et qui en fait quelque chose de bien. Alors, je ne vous aurais pas conseillé ce film si je ne l'avais pas aimé. Et je ne suis pas pour sauver le cinéma français s'il n'est pas sauvable. J'avais détesté le dernier Astérix et Obélix et je l'ai souvent dit. Mais là, nous sommes face à une œuvre majeure, un très beau film, un très grand film, c'est du très grand cinéma. Et c'est pour ça, parce que à la fois il porte notre histoire et qu'on en a besoin, à la fois parce que c'est un excellent divertissement et à la fois parce que ça va forger l'avenir du cinéma français. Chers auditeurs, chères auditrices, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Il est essentiel pour l'avenir.
Allez, sauvons le cinéma français à grand spectacle avec Grégory Com. Allez voir La bataille de Gaulle, l'âge de fer d'Antonin Baudry. C'est Volker Bertelmann qui signe la bande originale du film La bataille de Gaulle. Ce qui est bien avec le cinéma, c'est qu'il suffit de faire un petit pas de côté, on change d'univers, mais on change d'univers complètement.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun. Till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow
Allez, nous avons embarqué sur le fameux sous-marin jaune des Beatles, sous-marin extraordinaire créé en 1968 à partir de la chanson, bien sûr, que les Beatles destinaient à un jeune public, pas plus de 15 ans. D'ailleurs, vous avez reconnu, c'est Ringo Starr qui chante. Et le Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band veillait sur le royaume de Pepperland, mais il y a des méchants qui viennent et qui gomment tout, qui enlèvent les couleurs, qui enlèvent la musique, qui enlèvent la joie de vivre et qui transforment en statue les gens qui habitent là-bas. Oh mince, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben, on saute dans le sous-marin jaune et puis il faut réparer tout ça. Et nous voilà partis. Un univers assez extraordinaire. On n'avait jamais encore vu ça en 68 sur un écran. C'est pop, c'est psychédélique, ça va dans tous les sens. Ça a marqué son époque, ça a marqué les Beatles, qui n'y croyaient pas vraiment parce qu'ils n'étaient pas très investis dans le film. Néanmoins, le film a pas trop mal marché. Il n'a pas été bien distribué, mais il a plutôt bien cartonné. Et puis, il y avait une BO assez extraordinaire. Des titres préexistants, bien sûr, des Beatles, et quelques titres originaux, 4, sont sortis dans une BO. À l'époque, c'était vinyle. Face à, il y avait les Beatles. Et dans l'autre, la musique d'ambiance qui avait été créée par George Martin, leur producteur. Allez, tout ça pour vous dire qu'il faut aller voir le sous-marin jaune des Beatles dans la programmation pop de la Cinémathèque. C'est vendredi 12 juin à 21h. Comme on ira aussi à la Cinémathèque, laissez-moi me retrouver dans mes notes. Parce que on en a déjà parlé, mais c'est que pour moi c'est une madeleine. Le Voyage fantastique de Richard Fletcher, c'était un film de 65. Là, on plongeait dans le corps humain aussi avec un sous-marin, mais là c'était beaucoup plus sérieux.
C'est le film avec Raquel Welch.
Eh oui.
Vous adorez, c'est ça? Le film est Raquel Welch.
Ouais, et attaqué par les globules blancs. Il faut avoir vu ça, c'est assez extraordinaire. Donc vous irez voir le film dimanche 14 juin à 17h. Sinon, grâce à Billy Wilder, il y a Stalag 17. Ça aussi, c'est
formidable.
Un monument du cinéma. On est dans un camp de prisonniers. Les alliés anglais, américains qui sont en Allemagne et parmi ce groupe de prisonniers, dans ce groupe de prisonniers, il y a un traître. Vont-ils le trouver? Ah! Eh ben oui.
Juste signaler qu'il y a une magnifique sortie en Blu-ray chez Rémini Édition depuis une semaine.
Alors, en Blu-ray ou sinon sur grand écran, jeudi 11 juin à 21h. Et puis, on finit notre tour d'horizon avec les gens de Dublin. Ça, c'est très très beau. C'est très très beau, les gens de Dublin. C'est un film, c'est le film Testament de John Huston qu'il a réalisé en 87. Un film magnifique inspiré d'une nouvelle de Joyce. Extrait justement d'un recueil qui s'appelait Les gens de Dublin. La nouvelle, c'était The Dead. En français, on a préféré Les gens de Dublin. Et ça marche. Et il y a Angelica Huston dans ce film, la fille de John Huston, qui est superbe. Un réveillon du jour de l'an. Les gens parlent. Voilà, c'est extraordinaire. Et ça, cette programmation, on l'a droit à Christian Torel, qui est le vice-président de la Cinémathèque, mais aussi attaché à Ombre Blanche, bien sûr. Et qui a écrit un livre consacré au cinéma qui vient de paraître aux éditions Verdier, Les Nuits expérimentales, un carnet de cinéma. Et ça finit sur Les gens de Dublin. Et ça commence par Dest de Chantal Akerman. Elle a choisi les deux films à voir à la Cinémathèque. Alors précipitez-vous, parce que déjà les premiers films sont passés, il en avait trois. Les gens de Dublin, c'est pour ce soir à 21h. Vous avez le temps de rester avec nous et vous courrez au cinéma à la Cinémathèque après. Sinon, rapidement, vous ferez un tour au cinéma Pathé Labège, mais au cinéma Pathé Wilson également, pour voir le film de Luca Guadagnino, Call Me By Your Name, qui a propulsé Timothée Chalamet au firmament des stars. Il y a Shrek. Mais oui, Shrek, le
2001 déjà.
Oui, le monstre, là, vous savez, c'est une espèce d'ogre, hein, c'est pas un monstre, c'est un ogre jaunâtre, et c'est plutôt sympa. Le film a cartonné, c'était... C'était un film des studios DreamWorks. Hein, oui, c'était DreamWorks et ils ont fait un peu la nique aux autres à côté. Ils se sont rendus compte que Les autres, c'était, laissez-moi retrouver leur nom, vous savez, c'est ceux dirigés par Steve Jobs et Pixar. Et à ce moment, on essayait de se piquer la mainmise sur les films d'animation. Et là, ils avaient taillé quelques croupières. À voir donc dimanche 14 juin à 17h45 au Pâté la Belge et à 18h au Patty Wilson, The Nice Guys, pour revoir ensemble Ryan Gosling et Russell Crowe. Ah bah oui, un film de Shane Blake. Deux détectives privés assez, j'allais dire farfelus, pas vraiment, mais ça cogne et ça pète les bras. Dimanche 14 juin, 19h30, en VO, tout ça à la Belge et seul sur Mars, au cas où vous auriez envie d'accompagner Matt Damon sur la planète rouge, c'est lundi 15 juin à 21h. Enfin, pour faire plaisir à notre fouteux, c'est...
Bah oui, ça commence demain. Hein.
Guillaume Sidom, justement, demain, au lieu de voir le match d'ouverture, allez voir Pelé, naissance d'une légende de Michael Zimbalist.
Le problème, c'est que c'est pas le meilleur. C'est évidemment pas le meilleur. Et puis en plus, c'est en version.
La version originale, c'est de l'anglais.
C'est de l'anglais. Alors, c'est un peu problématique.
Il est censé parler brésilien quand même, Pelé.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Voilà. Eh ben, écoutez.
On vous conseille plutôt le Maradona d'Asif Kapadia de la semaine d'après.
Et puis, juste parce qu'il est chez nos amis du Cosmo, on a une dernière chose à vous faire découvrir, si ça veut bien partir. Kenji Kawai a signé la musique de ce film de Mamoru Oshii. Je suis en train d'écorcher son nom. C'est Mamoru Oshii. Un film sorti en 95 dont l'action se passe en 2029. Demain, Ghost in the Shell qui ressort sur grand écran chez vous. Jérémy Bretta, entre autres, et on a la chance de redécouvrir ce film irracontable. L'action est irracontable. 2029, on est dans une époque où on peut greffer des choses sur l'être humain pour multiplier ses capacités, mais aussi ses capacités intellectuelles. Ça s'appelle. Cette espèce de boîtier qui renferme un vrai cerveau humain s'appelle le ghost, et le corps qui le porte, c'est The Shell, ce qui est ça. Au moins vous comprenez le titre. Après, pour le reste, allez, parce que c'est une enquête, ça passe dans tous les sens. En tout cas, il faut voir ce film qui est un spectacle assez
et techniquement très en avance sur son temps et en effet très visionnaire,
et dans une copie numérique restaurée 4K.
Voilà,
vraiment, ça vaut le coup.
Avec le son ad hoc. Allez, Laurent, dites-nous ce qu'il faut
comme
voir.
Comme le capitaine. Le cinéma, la télévision, garantie sans ballon rond. Ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec Parasite de Bong Joon-ho. Dans un quartier huppé de Séoul, la famille Kim, vivant dans une pauvreté extrême, découvre un moyen inattendu de s'infiltrer dans la vie des parcs, une famille riche et privilégiée. Conçue comme une farce très noire sur la société coréenne, Parasite a su toucher critique et public. Le résultat, une palme d'or, des Oscars, dont celui du meilleur film, amplement mérité. Chapeau l'artiste. Jeudi, France 4, 21h, Love and Mercy de Bill Pollard avec Paul Dano et John Cusack. Dans les années 60, Brian Wilson, tête pensante des Beach Boys, excusez-moi, un petit chat à la gorge, compose certains des morceaux
un flow dans la gorge.
Des morceaux comme Good Vibration ou Be Nice, etc., qui font encore aujourd'hui la gloire de la formation. Une biographie qui marque par son ton singulier, sa finesse d'écriture et sa direction artistique soignée, et bien sûr sa musique. Jeudi, France 5, 21h, un film que vous aimez beaucoup, Guillaume, La leçon de piano de Jeanne Campion, avec Holly Hunter, Sam Neill et Harvey Keitel. Histoire d'Ada, une jeune femme muette, veuve et passionnée de musique, qui débarque avec sa fille sur une plage de Nouvelle-Zélande où elle doit épouser Alistair Stewart, un colon qu'elle ne connaît que par courrier. Récompensé par une palme d'or à Cannes, la première pour une femme,
oui,
c'est bien ça.
Tout à fait avant.
Un film lyrique d'une grande sensualité, doublé d'un émouvant portrait de femme. Dimanche 21h Arte, on pourra revoir Les nerfs à vif de Martin Scorsese. avec Robert De Niro. Condamné à 14 ans de prison, Max Cady n'a jamais pardonné à son avocat de l'avoir abandonné. Pour lui, l'heure de la vengeance a sonné quand il sort de prison. Un thriller cruel, violent et virtuose, habité par la prestation hallucinante, comme d'habitude, de Robert De Niro. Le conseil de lecture, ce sera L'argot du cinéma français. Corneau, Barbouze, Ripoux et compagnie, de Philippe Lombard. Cet ouvrage recense près de 150 mots d'argot, le rififi, morfalou, ripoux, grisby, ou des mots d'esprit, des aphorismes, des néologismes ou des expressions fleuries, dont il donne le sens, l'origine et le contexte cinématographique. Voilà des anecdotes amusantes ou historiques et de belles répliques. Un livre que vous retrouvez aux éditions Dunod pour un petit prix à 9,99€. Tenez Jérémy, je vous l'offre. Voilà pour le cinéma à la télévision cette semaine.
Putain, ça va, quoi. Claquer les portes, fais comme chez toi.
Mais vous êtes qui? Et vous?
La France.
Allez, sur cette petite musique aux accents italiens, puisque ça vient d'une année italienne, le film de Lanas. Je me mélange toujours dans les noms, et je ferais mieux de m'en référer à...
Laura Samani.
Voilà, à mes petites notes. Dites-nous, il nous reste un petit peu de temps. Jérémy Bretta, on a parlé de Soudain.
Oui.
Dans une salle, mais il y a trois salles chez vous. Alors, exactement. Qu'est-ce qui attend les spectateurs qui auront la bonne idée de venir fêter les 10 ans de l'American Cosmograph mardi 16 juin prochain?
Alors, comme tu disais, on peut changer d'univers très vite dans le cinéma. Donc, à 20h15, on passera un film qui s'appelle Jim Quinn.
Ah là là là, là.
Complètement barré.
Complètement barré. Un film d'animation français qui était aussi présenté en Cannes en séance de minuit. C'était une séance absolument dingue. Donc, c'est le premier long métrage des studios Bobby Pills qui, jusque-là, avait fait plusieurs séries, notamment Les Cassos et Pipoudou, qui étaient déjà des séries assez barrées. Donc, la premier long métrage dont le pitch est assez invraisemblable. Jim Parfait, influenceur bodybuildé à Paris, se découvre un jour atteint d'une terrible maladie, l'hétérose, donc qui rend les gays hétéros, et il va essayer de chercher l'antidote, accompagné de son premier admirateur et dernier fan, parce que évidemment tout son personnage allait beaucoup sur son homosexualité et tout ce qui en découle, mais le film est un festival de trouvailles, de jeux de mots, de blagues. Il y a à la fois l'histoire qui se passe, qui est très drôle, qui est trépidante, ça va à 200 à l'heure, mais partout autour de l'écran il y a des répliques qui fusent, il y a des jeux de mots, il y a des idées. C'est vraiment hilarant, c'est par certains côtés plus grand public que certaines de leurs séries, tout en étant assez cru, assez frontal, et c'est vraiment un film qui met de bonne humeur.
Alors, il y a Jim Quinn, mais il y a aussi la dernière séance. Alors, faites-nous rêver avec cette dernière séance.
Et alors, troisième salle, donc
parce 20h30. Qu'en plus, elle est loin, cette dernière séance-là. Rue Montardy, certes, mais on part loin.
Eh ben c'est ça, c'est dans notre côté découverte des cinémas du monde, et là on a la découverte du cousin indien de Cinéma Paradiso.
Voilà.
Film qui est inspiré de l'histoire du réalisateur, et on est vraiment dans la découverte du cinéma d'un jeune garçon, découverte du cinéma de l'époque, donc du cinéma organique, de la pellicule, vraiment de cette expérience-là qui est quand même assez spécifique. Et voilà, c'est une très belle histoire. C'est un magnifique hommage au 7e art, c'est une très belle déclaration d'amour au cinéma. Et pour fêter nos 10 ans, ça nous paraissait quand même super.
Est-ce que vous pouvez aller nous parler quand même des superbes affiches que j'ai pu voir, j'ai eu la chance de voir sur le site internet pour les 10 ans du Cosmographe?
Oui, tout à fait. On a une collègue, Lola, qui est au Cosmographe depuis 2 ans maintenant, et qui, sous son nom de scène Ampoule Sonore, est aussi graphiste et très créative. Et en effet, elle nous fait beaucoup de supports de communication. Et là, elle a fait une affiche pour les 10 ans que je trouve absolument magnifique.
Elle est extraordinaire. C'est american-cosmographe.fr. Vous avez le programme et en plus les affiches.
Et d'ailleurs, Lola a aussi dessiné pas mal de visuels qui ornent des goodies à l'effigie du Cosmo, t-shirts, tote bags, gourdes, affiches, qui sont en vente au cinéma. C'est aussi un moyen de nous soutenir et de nous emporter partout avec vous, donc n'hésitez pas.
Alors justement, vous achèterez tous ces goodies mardi prochain, 16 juin, dès 18h, L'accueil, la revue Montardi, sera ouverte au cinéma sous la houlette de... Comment s'appelle-t-il cet homme qui est sur un remonte-pente à un télésiège?
Et oui, tout à fait. Alors, ceci dit, ce Michel Blanc va un peu changer va sans doute changer d'endroit, parce que c'est l'endroit où une surprise vous attendra ce jour-là. Mais on ne peut pas vous en dire plus.
On n'en dit pas plus. Allez, à 18h45, il y a les Beanies qu'on va réécouter. Et puis, à partir de 20h, les projections des films dont vous venez de nous parler avec beaucoup de talent. Merci, Jérémy Bretta.
Ben, merci à vous. Et puis surtout, je trouve que vous parlez très bien de cinéma. Vous m'avez donné envie de voir plein de films, même de revoir certains que j'avais déjà vus, notamment Flo. C'était un vrai plaisir de vous écouter.
Merci, Jérémy. Jérémy Bretta, l'American cosmographe. Et bon anniversaire un petit peu en avance. Laurent, vos coups de cœur.
Les coups de cœur, Disclosure Day, The Christophers, Le Verre. Vertige, film de Quentin Dupieux, et mardi 16 juin, à partir des 18h, l'American Cosmographe, c'est rue Montardi, à Toulouse.
Une année italienne, les 10 ans de l'American Cosmographe, Obsession, hein, toujours en salle, Flo, évidemment, demain en plein air. Et puis, comme je suis d'origine égyptienne, rapidement, Notre Histoire Chronique du Caire, un film coup de cœur, hein, qui sort sur nos écrans le 1er juillet prochain.
Disclosure des Une année italienne, The Christophers. Tout ça, c'est pour moi. Et puis, évidemment, les 10 ans du Cosmo, mardi prochain. Merci, messieurs.
Merci à vous.
Merci. Merci.
À la semaine prochaine. Restez fidèles à Présence. Salut.
La prochaine fois, on ira au cinéma.